Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Je voudrais, à travers le texte biblique que nous allons lire, nous montrer l'importance justement de cette parole que Dieu met à notre disposition. Deutéronome chapitre 6, verset 6. « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » À travers ce texte, Dieu nous montre l'importance de la parole, de sa parole, qui doit imprégner chaque élément de notre personnalité. Il est question de notre vie affective, notre vie sentimentale, notre vie émotionnelle, qui doit être imprégnée par cette parole qui doit toucher notre cœur. « Garde ton cœur, dira l'auteur des Proverbes, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et c'est pour ça que Dieu, s'adressant aux humains, dira « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent à mes voix. » Jésus-Christ, quand il sera critiqué par ses contemporains parce que il ne reprend pas ses disciples qui, avant de se mettre à table, ils ont une telle fringale qu'ils n'ont pas pensé même à se laver les mains, ils n'ont pas fait leur ablution telle que la tradition l'indiquait. Alors Jésus, regardant les critiqueurs, leur dit « Mais vous savez, c'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort, parce que les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les vols, c'est du cœur de l'homme que cela vient. » Et il ajoutera à un autre, dans un autre texte, « De l'abondance du cœur, la bouche parle. » Chers amis, si la parole de Dieu ne touche pas notre vie sentimentale, notre vie émotionnelle, notre vie affective, nous risquons de faire beaucoup de gaffes dans ce domaine. Et quand j'ai l'occasion de prêcher, je l'ai fait souvent et je dois encore le refaire, au mois de septembre puis au mois d'octobre, dans des mariages, je tiens à rencontrer d'avance les fiancés. C'est ce que je faisais dimanche passé à Bienne, en Suisse, puisqu'une de mes nièces va, le 8 octobre, se marier. Et elle désirait elle-même que je rencontre son fiancé qui n'avait pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui avait besoin d'être confronté avec le message de l'Évangile. Et je bénis Dieu de ce que, dimanche passé dans l'après-midi, après un long entretien avec Fabrice, celui-ci, dans la prière, a accepté de remettre sa vie à Jésus-Christ. Et j'ai pu dire, Peggy, Fabrice, c'est avec joie que je m'associerai à votre union, parce que je sais qu'elle pourra être stable et solide, parce qu'elle sera ancrée dans la parole de Dieu. Il y a tant et tant de drames sur le plan sentimental. Il y a tant de ruptures, il y a tant de divorces, il y a tant d'enfants du divorce dans notre monde. Parce que malheureusement, certaines personnes se sont engagées et n'ont pas pris garde d'enraciner leur vie affective, leur vie sentimentale dans le terreau fécond, béni de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit « Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Et si votre vie sentimentale, et si la vie affective de nos enfants et de nos petits-enfants, je peux en parler puisque j'ai 5 petits-enfants, si celle-ci est imprégnée de la parole de Dieu, alors ils éviteront de tomber dans les travers qui marquent cette génération. Et ils connaîtront l'épanouissement dans leur vie conjugale, dans leur vie familiale. Mais si ce n'est pas le cas, alors je leur crie « casse-cou ». Deux personnes, une catholique, l'autre protestante, une divorcée une fois, l'autre divorcée deux fois, m'ont demandé de venir prêcher à leur mariage. J'ai tenu à avoir de longs entretiens avec ces deux personnes qui avaient connu des désillusions et des ruptures dans leur vie sentimentale. Et je leur ai dit, vous savez, c'est pas parce qu'un pasteur prêchera lors de votre union, si vous-même, vous ne décidez pas de l'ancrer dans la parole de Dieu, ça risque d'être une catastrophe, comme vos premières unions conjugales. Mais si vous laissez la parole de Dieu imprégner votre vie sentimentale, votre vie affective, alors vous découvrirez, après le temps de la passion, le temps de la tendresse, de la fidélité, parce que l'amour est une fleur très fragile. Si elle n'est pas arrosée par la parole de Dieu, elle va vite se faner, elle va vite mourir. L'amour étant un sentiment qui doit s'apprendre, il faut être à l'écoute de celui qui est amour et de celui qui, aux noces de Cana, a permis aux conjoints, a permis aux invités, aux convives, de retrouver le sourire quand ils ont écouté sa parole, permettant à de l'eau de devenir ce vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et cette ivresse qui n'est pas suivie par la migraine, comme l'ivresse provoquée par certains de nos crus, mais une ivresse qui dure parce qu'elle est alimentée à la parole de Dieu. Cette parole que je te donne aujourd'hui, non seulement sera dans ton cœur qui est source de la vie, mais elle sera aussi comme un fronteau entre tes yeux. Ça signifie que tu vas devoir laisser ta vie intellectuelle, ton raisonnement, être influencé par la parole. Et si nous laissons la parole de Dieu nous aider à ne pas nous laisser conditionner par les mass médias, par les maîtres penseurs, ceux auxquels fait allusion Glucksmann dans son livre qui porte ce titre, où il montre que des générations d'étudiants et de profs ont été influencés par quatre maîtres penseurs, Fichte, Hegel, Marx et Nietzsche. Et Maurice Clavel, qu'on a appelé le tonton des néo-philosophes, dans son bouquin « Deux siècles chez Lucifer », va montrer que derrière ces quatre maîtres penseurs, il y a Lucifer, le porteur de lumière, qui veut influencer notre raisonnement, notre mentalité, nous coulant dans son moule. On nous a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 12. Ne vous laissez pas couler dans le moule du monde. Une autre traduction, ne vous conformez pas au siècle présent. Ou ne vous laissez pas couler dans le moule de monsieur tout le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre mentalité, de votre façon de voir les choses, de raisonner, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous qui étudiez, est-ce que vous laissez la parole de Dieu vous permettre de passer au crible les ouvrages qui vous sont proposés par vos profs? Si vous agissez conformément à ce que préconisait Franklin, un savant qui écrivait à son fils en lui disant « Mon fils, écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille, et toujours ton autre oreille pour entendre les accents de ton ami céleste. » Avant la stéréophonie, il lui indiquait cette écoute. Les savants, d'accord, d'une oreille, et ton autre oreille pour entendre les accents de ton ami céleste. Passe au crible de la parole de Dieu les ouvrages qui te seront proposés. Je n'ai jamais autant lu depuis le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ comme mon sauveur. J'ai dû quitter l'école à 16 ans pour commencer à travailler, pour gagner ma croûte. Mais j'ai énormément lu, parce que c'est à 16 ans et demi que j'ai rencontré Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et à travers ces lectures, ça m'a permis de comprendre un petit peu la génération dans laquelle je vivais. Mais j'ai confronté les lectures que je faisais avec la lecture de la parole de Dieu afin de ne pas dériver du plan que Dieu avait tracé pour ma vie et qu'il veut tracer pour la vôtre, afin de ne pas me laisser influencer par le prince de ce monde qui est appelé aussi le prince des ténèbres, le prince de la puissance de l'air, le menteur et le père du mensonge qui va utiliser le tape-à-l'œil, l'esbrouf, l'ersatz pour nous en mettre plein la vue et pour nous faire dévier du chemin que Dieu nous trace. Alors laissons la parole de Dieu influencer notre raisonnement. afin que notre vie intellectuelle, dissociée de la parole de Dieu, ne nous conduise pas dans des chemins que nous regretterions d'avoir pris parce que ça aboutit à des gouffres ou à des impasses. Et puis, il est dit non seulement que cette parole doit influencer notre vie affective, notre vie intellectuelle, mais elle doit aussi influencer notre vie sensitive, notre vie sensuelle, représentée par ces mains qui nous permettent de communiquer. Le toucher, c'est un de nos sens, mais il y a les autres sens de notre être qui sont les portes de la perception auxquelles fait allusion Aldous Huxley dans un de ses bouquins. Comment éviter que ces portes-là ne soient ravagées, ne soient défoncées par l'ennemi et nous conduisent à une vie sensuelle, débridée, déréglée, semblable à celle qu'avait connue Cyril Collard, l'auteur des Nuits Fauves? Comment éviter de nous laisser influencer par une génération qui prône l'usage de notre vie sexuelle et de la vie sexuelle de nos enfants dès l'époque de la puberté sans aucun frein, si ce n'est de se couvrir pour éviter de choper ce fameux virus conduisant au sida? Hier, en rentrant de la Réunion, j'ai regardé pendant un moment une émission qu'il y avait à la télé. Encore, il y avait des sidéens qui étaient interviewés. Je visiterai mardi prochain à la prison où je suis aumônier protestant bénévole de Saint-Quentin-Falavier, entre autres deux séropositifs, Franck et Xavier. J'ai écrit des cartes hier à 5 détenus de cette prison pour leur fixer rendez-vous et leur dire « Préviens les autres que je serai présent parmi vous ». Et parmi ceux à qui j'ai écrit, il y avait Franck, le séropositif, et Xavier, un autre séropositif, parce qu'ils ont donné libre cours à leur sens débridé, ils sont devenus séropositifs. Franck me disait, c'est pas avec ma seringue, puisque je faisais attention, chaque fois que je me piquais, je changeais de seringue, mais c'est en couchant avec une fille que j'ai chopé ce satané virus. Amis, on vit dans un siècle où malheureusement, notre vie sensuelle prime tout. Et la Bible dit que sa parole doit influencer cette vie sensuelle, cette vie sensitive, les portes de notre être par lesquelles l'ennemi veut pénétrer pour nous bousiller. Et si nous ne laissons pas la parole de Dieu intervenir aussi à ce niveau-là, si nous donnons simplement à Jésus-Christ notre âme et notre esprit sans lui dire « Seigneur, prends aussi en charge mon corps, ma sensualité », nous risquons de tomber dans pas mal de déboires. Parmi le public que j'avais vendredi à la centrale de Muret, où j'étais avec votre pasteur, qui est aumônier, et le pasteur de l'église baptiste, Murebin, il y avait trois gars, qui, semble-t-il, ont fait une expérience avec Jésus-Christ, mais qui probablement n'ont pas confié tout leur être et ils sont tombés pour mœurs. Leur vie sensuelle, n'étant pas influencée par la parole de Dieu, ils sont incarcérés. L'un d'entre eux me rappelait qu'il m'avait rencontré en 70 à Agen dans un festival de gospel music que j'animais. Il faisait partie d'un groupe chrétien, les Benjamins. Il était le guitariste rythmique de ce groupe. Ça fait 5 ans qu'il est incarcéré, il a encore 2 ans à purger à la centrale de Muret. Ami, il me disait, puisque j'avais fait allusion à cet entraîneur que Dieu nous proposait, son fils Jésus-Christ, il me disait, j'ai plus suivi les conseils de mon entraîneur et j'ai chuté. Et il se retrouve maintenant, depuis 5 ans, à la centrale. Parce qu'il n'a pas laissé la parole de Dieu imprégnait sa vie sensuelle, il est tombé pour mœurs dans la délinquance. Combien de gars que je rencontre au cours de mes tournées en prison, ça fait 26 ans que j'interviens, j'ai déjà fait 180 prisons différentes. Et dans certaines, j'y vais régulièrement. J'ai fait des centaines de séances en tôle. Chaque fois que je vais dans une ville, je dis, mais il y a une prison à proximité. Et j'envoie une demande au directeur régional des établissements pénitentiaires, une demande au directeur de l'établissement concerné, pour leur proposer de faire une séance pour ces détenus, parce que j'ai pris conscience pendant ces 26 années que compte mon intervention dans les milieux pénitentiaires. J'ai pris conscience que c'est cette parole, la parole de Dieu, qui peut transformer ces coupables en des gars ou des filles qui pleurent sur leur culpabilité et qui désirent réparer dans la mesure du possible, ou qui confient à Dieu l'irréparable parce qu'ils savent que lui a payé le prix pour pouvoir les pardonner. Relisez dans Ésaïe 55, où Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent sur la terre et ne retournent pas à Dieu sans avoir produit leur effet, sans avoir fécondé le sol. David, quand il écrira dans le psaume 119, au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Il donnera lui-même la réponse, lui qui avait eu des problèmes au niveau sensuel et qui a commis adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, et qui a été conduit au meurtre en faisant placer le mari légitime au fort de la bataille et en demandant aux généraux de s'éloigner pour qu'il soit atteint par les ennemis. Ce David a réalisé que s'il ne laissait pas la parole de Dieu agir en profondeur, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, je sers ta parole dans mon cœur, ajoutera-t-il au verset 11, afin de ne pas pécher contre toi. Il a réalisé que c'est la parole de Dieu qui pouvait lui donner cette purification. Dans un monde d'impureté, où nous sommes agressés par les affiches, où nous sommes agressés par les programmes de télé, où nous sommes agressés par les conversations de nos collègues de travail, comment allons-nous pouvoir rester pur dans un monde impur ? Comment allons-nous pouvoir éviter la souillure alors qu'elle est répandue autour de nous ? Si ce n'est en laissant la parole de Dieu agir pour nous purifier, en laissant la parole de Dieu faire son travail comme ce jet puissant qui délogera les tâches les plus rébarbatives, les plus incrustées, non seulement au niveau de notre conscient, mais au niveau de notre inconscient et de notre subconscient. Oh, la parole de Dieu, mieux que n'importe quelle séance psychanalytique, pourra nous permettre de connaître cette libération de nœuds qui ont été noués dans l'enfance ou dans l'adolescence, qu'on appelle des complexes. La parole de Dieu pourra, avec ce jet puissant, déloger tout ce qui pourrait empoisonner notre présent et notre avenir. Est-ce que nous l'avons laissé agir dans ce rôle de purification qu'elle veut avoir ? Tout à l'heure, nous avons encore fait allusion à ce texte de la première épître de Jean où il est question de la confession et du pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Et cette purification, elle se fait par sa parole, que l'Esprit va utiliser pour agir en profondeur dans nos vies. Mais ce n'est pas tout. La parole de Dieu est celle qui va déterminer notre état d'esprit. Votre joie, elle dépend des circonstances, elle dépend du milieu, elle dépend du soleil ou de l'orage. Vous savez que à certains moments, il y a plus de ions négatifs que de positifs dans l'atmosphère, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces ions négatifs, au lieu d'avoir un rôle nous rendant d'une humeur massacrante, au contraire, font que nous sommes d'une humeur assez bonne. On a constaté dans un hôpital des États-Unis que quand les infirmières et les médecins, les chirurgiens travaillaient à proximité d'une machine productrice de ions positifs, ils n'étaient pas à prendre avec des pincettes. Ils prenaient la mouche pour n'importe quelle remarque ou pour n'importe quel regard. Mais quand ils travaillaient à proximité de la machine productrice de ions négatifs, ils étaient euphoriques, ils étaient enthousiastes. Alors on a utilisé ces ions, en particulier pour traiter les grands brûlés. Est-ce que nous allons être influençables, espèce de girouette philosophique, parce qu'il y aura dans l'atmosphère plus de ions positifs, nous serons, nous, d'une humeur négative ? Ou est-ce que lorsque tout ira bien, parce que les événements seront là, nous allons être euphoriques ? L'apôtre Paul, quand il était en prison à cause de sa foi, il vient de recevoir la bastonnade avec son ami Silas. Est-ce qu'il se plaint ? Il est là, au mitard. Il chante et il loue le Seigneur. Et c'est du fond de sa prison qu'il écrira l'épître de la joie, c'est-à-dire l'épître aux Philippiens, alors qu'il est dans une autre prison à Rome. Il écrit aux Philippiens, les habitants de cette ville où il a été jeté en prison à Philippe, un jour, à cause de sa prise de position, pour libérer une femme esclave, esclave du démon, esclave d'un esprit lui permettant de deviner et de rapporter beaucoup de fric à ses patrons. Mais ému par la condition de cette femme, Paul va la libérer et il va se retrouver incarcéré à cause d'une bonne action. Et il ne va pas se plaindre, pas plus que Joseph dans l'Ancien Testament ne se plaindra des années qu'il passera en tôle à cause de son intégrité, refusant de se retrouver dans le lit de la femme de son patron, parce qu'il préférait être en tôle avec Dieu que d'être dans le lit de la femme de Potiphar sans Dieu. Parce que pour Joseph, la parole de Dieu et celui qui l'avait inspiré était essentiel, était primordial. Et il trouve sa joie, comme Jérémie le dira dans le chapitre 15, verset 16, « Seigneur, tes paroles ont été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie vivait dans un contexte difficile, on voulait le faire taire, on l'avait jeté dans une citerne, parce qu'il annonçait un message qui n'était pas populaire, il annonçait la déportation. Et on lui en voulait d'annoncer un message qui était demandé par Dieu. Mais on ne veut pas entendre de mauvaises nouvelles, on ne veut pas être confronté avec la vérité. Et pourtant, Jérémie a réalisé qu'au sein de ces circonstances adverses, c'est la parole de Dieu qui lui donnait sa joie. « Je vous ai dit ces choses, dira Jésus à ses disciples, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Notre joie sera-t-elle déterminée par les circonstances, par l'environnement, par le milieu? Ou sera-t-elle déterminée par notre attachement à la parole de Dieu? Bien sûr, tout à l'heure dans sa prière, le pianiste a fait allusion aux épreuves qu'on peut connaître. Et qui n'a pas connu des épreuves dans sa vie? Qui n'a pas connu la souffrance parce qu'un être cher a été atteint par la maladie et peut-être est décédé? J'ai une de mes sœurs avec qui j'étais dimanche passé, puisque c'est chez elle que j'avais rendez-vous avec ma nièce à Bienne. Ma sœur Nicole a perdu dans un accident son mari. Elle venait de passer le week-end chez nous dans l'Isère, et à 1h du matin, je reçois un coup de fil. Elle allait rejoindre son mari qui venait d'Arola où il avait un bureau d'assureur. Ils allaient se rejoindre. Et sur le trajet, dans une collision, mon beau-frère Pierre est décédé. À 1h du matin, je reçois ce coup de fil de ma sœur qui m'annonce la nouvelle. Elle était en larmes. Que pouvais-je dire à Nicole? J'ai prié. Et je lui ai cité des textes de la parole de Dieu. Et ma sœur Nicole, qui a perdu quelques 1 an et demi plus tard dans un autre accident, sa belle-fille et ses 2 petits-enfants, a un rayonnement qui fait qu'elle est invitée dans des clubs chrétiens féminins pour donner son témoignage. Elle qui s'est laissée consoler par la parole de Dieu, elle console les autres. L'apôtre Paul dira dans les Thessaloniciens, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » C'est la parole de Dieu qui peut nous consoler quand notre cœur est triste, quand on est éprouvé. Notre fils avait 18 ans, le dernier. Quand la visite des 3 jours révèle qu'il est atteint d'un cancer des ganglions, le lymphome T, au stade 3. C'était pas la maladie de Hodgkin qui se soignait, qui se guérissait à 80 ou 90%, mais c'était le lymphome le plus pernicieux et au dernier stade où on pouvait le soigner. J'aime autant vous dire que j'ai crié vers Dieu dans les mois qui ont suivi, alors qu'il était à l'hôpital, en chimiothérapie. J'ai trouvé dans la présence de Dieu, dans sa parole, la consolation. J'ai trouvé celui qui m'a permis de continuer mon ministère, même si parfois je chialais tout le long dans ma voiture. Mais il était là, et sa parole... La parole d'un père qui avait dû laisser son fils cloué comme une peau de bête sous le soleil d'Orient, sous les moqueries des prêtres et des badauds. Il pouvait me comprendre. Alors que mon fils était à l'hôpital et de Rerio et que je continuais mon ministère d'évangéliste, chanteur itinérant, il a pu me consoler parce que lui-même avait connu la tristesse, parce que lui-même pouvait, étant passé par des épreuves, comprendre. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La parole de Dieu est une parole de consolation, alors que les consolations humaines, c'est souvent un emplâtre sur une jambe de bois. Ça n'apporte pas vraiment ce dont on a besoin. Et puis la paix, celle que recherchent la plupart des hommes, et les Français sont des champions dans l'utilisation de barbituriques, d'euphorisants, de tranquillisants. Ils espèrent trouver la paix dans ces solutions chimiques, d'autres dans la pratique du yoga, de la méditation transcendantale, du bouddhisme zen. Chers amis, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, écrira le psalmiste au psaume 119, verset 165. Et Jésus dira à ses disciples, je vous ai dit ces choses afin que ma paix soit en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'apôtre Paul, quand il écrira encore aux Philippiens, leur dira au chapitre 4, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, avec des remerciements. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais il ajoute au verset 8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Après m'être vidé dans la prière, après avoir fait connaître à Dieu ma révolte, ne gardez pas cela pour vous exploser dans sa direction quand vous en avez gros sur la patate. Quand vous avez l'impression que personne ne vous comprend, criez vers Dieu, videz-vous en lui, mais ne restez pas vide. Laissez-vous remplir par sa parole, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite approbation. Et non seulement vous aurez les attributs de Dieu, la paix de Dieu, mais vous aurez le Dieu de paix qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il nous propose. Alors que sa parole soit cette parole qui agit en profondeur dans nos cœurs, pour nous apporter cette joie dont David, dont Jérémie, dont Paul nous parle, pour nous apporter cette consolation dont nous avons tellement besoin dans ce monde où le meurtrier répand sang, sueur et larmes. Laissons cette parole nous apporter cette paix, cette sérénité, cette paix des profondeurs, alors qu'il y aura peut-être des tempêtes en surface, parce que nous avons jeté l'ancre de notre foi dans le sol de la parole de Dieu. Nous ne serons pas ébranlés, nous aurons cette paix intérieure. Je voudrais que nous lisions dans le psaume 19, à partir du verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orfin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Chers amis, ce texte nous montre que la parole de Dieu va agir au niveau de chaque élément de ma personnalité. Il restaure, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Ce matin, avant de venir, vous avez pris le temps de vous restaurer. Vous avez peut-être pris un petit déjeuner, non pas continental, mais un breakfast, avec bacon, eggs, cornflakes, ou peut-être simplement des tartines avec beurre, confiture et du café au lait, comme on le prend en général dans notre pays, ou peut-être des croissants le dimanche matin. Mais vous avez pris le temps de restaurer votre corps, n'est-ce pas vrai? Vous allez le restaurer à midi, je suis invité chez des amis, avant d'aller au vieux temple où nous aurons cette rencontre à 15h de la Ligue pour les tours de la Bible. C'est souvent pour moi même un problème, parce que je suis trop bien reçu. Alors, j'ai des problèmes de brioche, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse du sport pour essayer de faire fondre tout cela. Mais on prend le temps de se restaurer, hein? Alors, qu'en est-il de notre âme, de notre vraie personnalité? Est-ce que nous prenons le temps de la restaurer? Est-ce que nous prenons le temps de lui donner ce repas, désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, dira Pierre? afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous êtes nouveau-né en la foi, est-ce que vous prenez votre biberon spirituel? Et si vous êtes né de nouveau depuis longtemps, est-ce que vous prenez ces repas, cette viande, ces légumes dont vous avez besoin? Ou est-ce que vous vous contentez du repas que vous donne, comme au biberon, le pasteur le dimanche matin? Dites. Faut pas vous étonner si vous êtes un peu anémique sur le plan spirituel. Il faut pas vous étonner si vous êtes rachitique sur le plan spirituel. C'est parce que vous ne prenez pas le temps de vous restaurer régulièrement, journellement. Alors, pour vous y aider, il y a des cordons bleus qui ont préparé une sauce. C'est le texte explicatif que donne le lecteur de la Bible. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui ont des années de vie chrétienne derrière eux. Vous savez vous-même, mesdames, combien une bonne sauce peut permettre de faire passer parfois un morceau un peu coriace. Et il y a des textes bibliques qui sont un petit peu difficiles à digérer, hein. Et la sauce va vous aider à les digérer. Mais il ne faut pas trop allonger la sauce, hein. L'important, c'est le texte de la Bible. Mais ça vous aidera à acquérir une discipline afin que chaque jour vous vous laissiez restaurer par la parole de Dieu. Mais il y a un deuxième sens au mot restauration, vous le savez. Quand il y a certains monuments qui sont classés monuments publics, il en est qui ont l'amour des vieilles pierres et qui vont investir leur argent et leur temps pour restaurer ce monument. Il y a un beau château à Saint-Quentin-Fallavier d'où je viens dans l'Isère. Et un ancien janséniste a consacré toute sa vie à restaurer ce vieux château qui avait appartenu à des gentilshommes protestants la dernière fois qu'il a été détruit. Chers amis, il y a beaucoup de personnalités qui sont devenues des ruines et qui ont besoin d'être restructurées. En prison, je suis des gars, par exemple Jean-Paul, que je retrouverai, je lui ai aussi envoyé une carte hier. Il a déjà fait 18 ans de tôle. Il lui reste 3 ans à purger. Xavier, auquel je fais allusion, le séropositif, a déjà fait 12 ans de tôle. Franck, l'autre séropositif à qui j'ai écrit encore une carte hier, il en est à sa 8e condamnation, il n'a que 27 ans. Chers amis, je rencontre à longueur d'année des gars et des filles qui ont été complètement bousillés par la vie carcérale, complètement déstructurés dans leur personnalité. Qu'est-ce qui peut leur permettre d'être restaurés, si ce n'est la parole de Dieu? C'est pour ça que je distribue des centaines, voire des milliers depuis 26 ans de Nouveau Testament dans les prisons où je passe. Parce que je suis conscient que c'est cette parole et elle seule qui peut les redresser. C'est cette parole et elle seule qui peut les aider à ne pas devenir des récidivistes constants. Ces violeurs d'enfants que je vois, il y en a 8 dans la prison où je vais, qu'on appelle les pointeurs. Et ils ne se réunissent pas avec les autres, je les ai parfois 8. C'est 8 dans une étude biblique pour les pointeurs. Ils sont très mal vus par les autres détenus. Didier Gentil, un chrétien l'a abonné au magazine dont je suis le rédacteur Jeunesse Libérée. Il y a plus de 300 jeunesses libérées qui partent dans toutes les prisons de France. On a abonné toutes les bibliothèques au départ, plus un tas de détenus, pour leur permettre, à travers les témoignages qu'ils peuvent lire, d'autres détenus qui ont rencontré Jésus-Christ pendant leur incarcération, et à travers les textes bibliques et les thèmes que l'on aborde, de se rendre compte qu'il y a une possibilité de briser le cercle vicieux de la récidive. Il y a une possibilité pour quelqu'un qui est esclave de sa sensualité, qui est incapable de résister à sa pulsion. Il y a une possibilité dans la parole de Dieu de trouver le moyen de lutter, de sublimer, de canaliser cette pulsion de violence ou sexuelle. Et c'est parce que je pense aux victimes que je vais en prison, parce que je me dis, si ces gars ressortent sans avoir connu ce bouleversement opéré par la parole de Dieu, ce sont des récidivistes, et il y aura d'autres gosses qui seront violés, qui seront assassinés. Mais s'ils peuvent être confrontés avec cette parole et accepter que celle-ci les bouleverse et pleurer, comme Michel me disait, c'est un de ses pointeurs, il venait de lire l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, de Luc, il en était au 5e chapitre de l'évangile de Jean, et il me disait, quand je lis les évangiles, la chose la plus terrible, c'est le problème de la culpabilité que je ressens. Et je lui disais, Michel, confie cette culpabilité au Seigneur, demande-lui pardon, et accepte que cette parole te purifie et te fortifie. Oui, la parole de Dieu, elle restaure l'âme, elle restaure la personnalité, elle rend sage l'ignorant. Notre intellect, nous n'avons peut-être pas eu l'occasion d'étudier beaucoup parce que nous avons dû travailler pour certains d'entre vous. Mais si la parole de Dieu est là, elle nous rendra sage comme elle a rendu sage Pierre et Jean, deux pêcheurs de poissons. Dans le texte de Actes chapitre 4, il est dit dans le terme original grec qu'ils sont sans intelligence. Et vous savez quel est le mot qui est utilisé en grec ? Idiotesse. D'où vient notre mot idiot ? Deux idiots qui confondent des docteurs en droit et des docteurs en théologie qui n'ont pour tout argument que la menace. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà leur diplôme. La parole du Seigneur, il rend sage l'ignorant. Que la parole de Dieu soit là et qu'elle habite parmi vous abondamment. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Je ne vais pas en parler, j'en ai déjà parlé tout à l'heure concernant nos émotions, concernant cette joie qui peut venir en nous ancrant dans la parole de Dieu. Ils éclairent les yeux. Jésus-Christ a dit que notre regard, c'est la lampe de notre corps. Quel est le regard que je porte sur mes contemporains ? Quel est le regard que je porte sur mes collègues de travail, sur mes enfants, sur mes parents, sur mes subalternes ou sur mes supérieurs ? Quel est le regard que j'ai ? Est-ce que notre regard est éclairé par la parole de Dieu ? Nous rendons conscients que tous ces mômes qui traînent la rue et dont personne ne s'occupe, je les retrouverai un jour dans mon public en prison parce que leurs parents ne s'en occupent pas. Et s'il n'y a pas des jeunes chrétiens et des jeunes chrétiennes qui sont prêts à leur tendre la perche parce qu'ils auront été émus par ces gosses qui traînent les rues et qui deviennent des graines de délinquance, si notre regard n'est pas éclairé par la parole de Dieu, alors nous aurons un regard froid, un regard superficiel qui va les effleurer. Mais si nous laissons la parole de Dieu éclairer notre regard, nous aurons ce regard de compassion qu'avait le Seigneur face à ces petits mômes, face à ces jeunes, face à ces délinquants. Pas un regard de juge, pas un regard qui condamne, mais un regard qui compatit, un regard d'amour. Si nous laissons notre regard être éclairé par la parole de Dieu, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or. Que beaucoup d'orphins, ils sont plus doux que le miel. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Et là, on voit que la parole de Dieu va être son mobile, son moteur, son guide, comme Martin Luther King, qui pouvait dire, j'ai utilisé quelques méthodes de non-violence de Gandhi, mais pour le fond, c'est Jésus-Christ qui m'a inspiré. C'est Jésus-Christ et sa parole qui a inspiré cet apôtre de la non-violence, qui pouvait écrire dans son prix Nobel de la paix en 64, La force d'aimer, vous nous jetterez en prison, nous vous aimerons. Vous nous torturerez, nous continuerons à vous aimer. Vous nous mettrez à mort, mais notre amour survivra. Ce n'était pas son amour personnel, mais c'était l'amour du Christ qui lui permettait d'aimer même ses ennemis, comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains chapitre 12, qui nous a été lu par celui qui a introduit ce moment de culte. Que Dieu nous aide. Et je voudrais tout simplement conclure en lisant un texte dans l'épître de Jacques. Jacques dira, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Laissons cette parole pénétrer pour nous féconder et pour sauver notre vie. Laissons cette parole influencer notre comportement, notre raisonnement. Laissons cette parole nous pousser à agir. Ne soyons pas des auditeurs oublieux qui, s'étant regardés dans un miroir, oublient qu'ils ont besoin d'un coup de peigne, qu'ils ont besoin d'un coup de gant de toilette, qu'ils ont besoin d'un coup de rasoir. Le terme qui est utilisé là pour « homme » c'est pas le mot anthropos qui inclut la femme, c'est le mot andros qui est pour le masculin. Et en général, quand un gars se regarde dans un miroir, à moins qu'il ne soit atteint de narcissisme, en général, contrairement à vous, mesdames et mesdemoiselles, c'est qu'on en a besoin. Et si nous rendons compte qu'on a ce besoin et qu'après nous être regardés, on oublie ce qu'on a vu, alors nous sommes des insensés. Que Dieu nous aide et vous aide à laisser cette parole agir en vous et vous motiver dans votre vie active, dans votre vie sentimentale, dans votre vie intellectuelle. Et remarquez, les trois expressions du Deutéronome chapitre 6 verset 6 sont trois expressions synonymes. Quand on connaît quelque chose parfaitement, c'est qu'on l'a appris par cœur. Ce qu'on a appris par cœur, c'est qu'on l'a mémorisé. Et ce qu'on a mémorisé, on le connaît sur le bout des doigts. Les trois éléments, vie affective, vie intellectuelle, vie sensitive et sensuelle. Ce qui m'a le plus aidé quand j'étais jeune chrétien, ça a été d'apprendre des textes bibliques, des versets bibliques clés par cœur. Et quand j'étais commando dans les Aurès du Sud Constantinois pendant la guerre d'Algérie, muté par mesure disciplinaire, pas parce que j'étais volontaire, mais parce que j'ai dit la vérité à un chef, et ça lui a déplu parce que c'était un poivreau fini qui n'osait partir en opération que lorsqu'il était plein, faisant courir des dangers aux hommes, moi je me suis retrouvé dans les commandos. Et qu'est-ce qui m'a permis de résister à l'entraînement du groupe et de prendre parti contre la question qui voilait un mot plus infamant, la torture? C'est que j'avais laissé la parole de Dieu imprégner ma vie. Et j'avais appris des versets bibliques par cœur, et alors que je ne pouvais pas ouvrir ma Bible, bien que je l'avais toujours dans une poche de mon treillis, ça rendait furieux mon chef, ça n'était pas du tout commando d'avoir sa Bible constamment sur soi. Mais pour moi, c'était mon épée, l'épée de l'esprit. Mais quand je ne pouvais pas la lire, il y avait quand même des textes que j'avais appris par cœur qui m'ont aidé. Que Dieu vous aide, vous qui êtes grands-parents, peut-être à apprendre des cantiques à vos petits-enfants, qui sont basés sur des textes bibliques, pour que cette parole puisse leur revenir dans les moments difficiles, cette parole apprise par cœur, qu'elle soit chantée ou qu'elle soit récitée, que cette parole les maintienne dans la pureté, dans la joie, les console et leur apporte la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je voudrais maintenant, tout simplement, m'incliner avec vous devant Dieu pour lui demander que sa parole fasse son effet dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette merveilleuse parole et qu'en elle, nous avons l'essentiel. Nous avons la vie, nous avons la source de la joie, de la consolation, de la paix. Nous avons aussi le moyen d'être déconditionnés. Aide-nous, Seigneur, à ne pas la laisser, à ne pas la prendre à la légère, mais à l'accueillir dans nos cœurs, dans nos pensées. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser influencer dans tous les domaines de notre vie par ta merveilleuse parole qui est plus précieuse que l'or et qui est plus douce que le miel.